Kiosque Magazine.
Bonjour à tous. Bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose son Kiosque Magazine du lundi 3
août. Ben oui!
Le lundi, le Kiosque Magazine est consacré à la culture et à la société pour vous présenter des textes que nous retrouvons sous ce grand chapeau culture et société. Nous avons Franceline Nieuvia. Bonjour,
oui,
Franceline.
Oui, bonjour Serge, bonjour
oui,
à vous.
Oui, bonjour Roger.
Bonjour Serge.
Oui.
Alain, ça va bien?
Ah, de mieux en mieux,
de
merci
mieux en
vous-même.
Mieux. Ah oui, avec la progression de l'été, ah, ça va très bien.
Ah ben oui,
ah, je me suis
un
peu...
lentement vers l'hiver.
Je me suis un peu... Ah oui.
Ah, oui.
Je me suis un
et
peu
le
ressourcé
le Mexique.
En ne pensant pas à l'hiver, justement.
Ah.
Non. Et qu'est-ce que vous avez à nous proposer, Franceline?
Alors, les textes que je vais vous lire aujourd'hui proviennent du journal L'Actualité de août 2015. Le premier s'intitule « Briser le tabou de l'argent ». Apparemment, les Québécois sont nuls en matière de finances personnelles. Cela leur coûte cher et nuit à la croissance économique. Alors, l'article nous dira comment peut-être redresser la barre. Et le deuxième article s'intitule « Un jardin pour la planète ». C'est une expérience en Chine et suivi d'un autre petit texte qui s'intitule « Terreur dans ma cour », qui est aussi sur l'environnement.
C'est beau. C'est et puis moi, je vais parler d'un bébé. Bébé bien repu, ce sont des préparations lactées, ça vous intéresse? OK, dans la revue Protégez-vous par le chargé de projet, c'est Charles Désy. Et après, je vais vous parler de l'art thérapeute.
Bon, alors moi, je vais vous inviter à faire du surf.
C'est agréable, c'est le temps, il fait
oui,
beau.
Oui, c'est ça.
Il fait pas chaud.
Mais bon,
pas.
Tout de suite, j'aurais bien voulu vous emmener à Cuba, mais je ne pourrais pas le faire.
Oh. Ah bon, l'avion ne part pas, quoi?
Non, c'est ça. Alors, il y a un petit pépin. Ah. Alors, je vais vous parler d'un texte que je suis allé lire dans l'actualité du mois de juillet. Il est signé par Pierre Duhamel. Ça a pour titre « Un hôtel dans votre salon ». Peut-être que ça intéresserait les voyageurs qui sont autour de la table ici. Là. Francis Davidson. C'est Pierre Duhamel, est-ce que je l'ai dit, qui signe
oui.
Le texte? Oui. Francis Davidson venait de terminer sa première année à l'Université McGill, où il étudiait la philosophie, l'économie et les finances. On a de la suite dans les idées, n'est-ce pas, Francis?
Oui, absolument.
Quand il a eu l'idée de créer une chaîne hôtelière avec les appartements inoccupés par les étudiants pendant l'été. De cette idée est né Flatbook.
Ah oui, je connais.
Devenu en 3 ans l'un des plus beaux espoirs de la scène québécoise des entreprises web.
Mm-hmm.
La société emploie une 50aine de personnes à Montréal et 40 autres à temps partiel dans une 30aine de villes de 11 pays. L'été dernier, nous avons fait des ventes $1 million avec un investissement initial d'à peine $50 000. Hein? C'est du monde qui ont du savoir-faire, qui ont du pif. Le jeune homme de Gatineau a eu cet éclair de génie à l'été 2012 lorsqu'il cherchait à sous-louer l'appartement de la rue Hutchison qu'il occupait pendant l'année scolaire. Il s'est demandé si des visiteurs de passage à Montréal pourrait souhaiter y passer quelques nuits et s'il pouvait rendre service à d'autres étudiants dans la même situation. Francis Davidson et le cofondateur Lucas Pellin, 22 ans tous les deux, me donnent rendez-vous dans un café branché du plateau Mont-Royal à Montréal. Il fait beau et chaud et Pellin est en Bermuda. L'économie du web est le terrain de jeu de jeunes entrepreneurs qui ne se formalisent pas des coutumes et usages du monde des affaires. Ni les règles. En créant un marché électronique qui permet à des propriétaires et à des locataires de louer ou de sous-louer un appartement à des touristes, Flatbook se pose comme un concurrent des gîtes et hôtels qui doivent, eux, payer des taxes, des assurances et d'autres frais. Dans presque toutes les villes ou régions du monde, les taxes sur l'hébergement permettent notamment de financer les efforts de promotion touristique. On aimerait payer ces taxes, mais nous ne pouvons pas les prélever parce que les logements que nous mettons à la disposition des visiteurs ne sont pas disponibles à l'année, m'explique Francis Davidson. À ceux qui disent que Flatbook est le géant américain Airbnb, Bread and Breakfast, B&B.
Oui, je connais Airbnb.
Airbnb contourne les réglementations existantes, le jeune entrepreneur oppose une autre réalité. À Montréal, comme dans toutes les grandes villes, il y a des milliers d'appartements loués à court terme. Nous apportons une solution pour simplifier la relation entre ces locataires et leurs clients. Simplifier. Ce mot revient souvent dans notre discussion. Francis Davidson et Lucas Pellin prétendent que leur modèle est plus simple et plus perfectionné que celui d'Airbnb. Le site américain fait pourtant un malheur sur le web. Plus d'un demi-million d'appartements y sont inscrits dans 33 000 villes de différents pays. L'entreprise a obtenu près de $800 millions pour financer sa fulgurante expansion depuis sa création en 2008. À la différence d'Airbnb, qui est essentiellement un site transactionnel, Flatbook se voit comme une chaîne hôtelière avec des marges bénéficiaires beaucoup plus intéressantes. Nous voulons être un Hilton, alors qu'Airbnb s'apparente plus à Expedia, explique Francis Davidson. Contrairement au site américain, Flatbook assume tous les risques. Il paie en entier le loyer mensuel du locateur et s'occupe de l'entretien ménager, de l'entreposage des biens et même de la remise des clés. Pour un trois pièces qu'il paie, disons, 1 500 $ Flatbook encaisse les revenus de 30 nuitées offertes pour les besoins de la démonstration à 160 $ chacune. Francis Davidson estime qu'un taux d'occupation de 38 % est suffisant pour atteindre la rentabilité. Flatbook est aussi à la recherche d'appartements qu'il pourra aménager avec sa propre designer. Dans 5 ans, vous pourrez trouver sur Flatbook un logement à Tokyo pour la fin de semaine ou à Berlin pour 4 mois, pas encore en Égypte, qui offriront à bon prix une expérience comparable à celle des meilleurs hôtels. Nous serons alors l'un des plus importants gestionnaires immobiliers au monde, et ça a été fondé à Montréal par des jeunes.
Le génie humain, il y en a à Montréal.
Un hôtel dans votre salon par Pierre Duhamel, c'est dans l'actualité du mois de juillet.
Alors maintenant, briser le tabou de l'argent, écrit par Cathy Noël dans l'actualité de août 2015. Les élèves de Marie-Pierre Bédard, enseignante de 5e secondaire au Collège Boisbriand en banlieue de Montréal, ont les yeux ronds comme des billes. La jeune femme leur a distribué un tableau dans lequel ils découvrent qu'un placement de 50 $ par semaine pendant 10 ans, de l'âge de 22 à 32 ans, peut valoir près d'un demi-million à 65 ans. C'est la magie des intérêts composés, lance la dynamique professeur en circulant d'un pas décidé entre les rangées de bureaux. Fière de son coup, elle m'explique que chaque fois qu'elle sort ce tableau, c'est un hit. Une vingtaine de jeunes de 16 et 17 ans assistent 2 fois par semaine à son cours sur la vie économique et la gestion des finances personnelles. C'est Marie-Pierre elle-même, dont le conjoint est planificateur financier, qui a pris l'initiative d'offrir ce cours optionnel intégré depuis au programme du collège. Certains vont entrer au cégep et ne savent même pas ce que c'est qu'un crédit. « Je trouve ça aberrant », dit-elle. Voilà ce qui m'a incité en 2011 à faire appel à l'Académie du Trésor, un OSBL québécois fondé en 2010, qui fournit aux écoles primaires et secondaires des outils de formation adaptés aux jeunes. Une vingtaine d'écoles offrent aujourd'hui les cours de l'Académie en Estrie, en Montérégie, à Montréal et à Drummondville. C'est peu, mais ce n'est qu'un programme parmi les 150 qui ont été conçus au Québec pour tenter d'inculquer aux élèves des notions financières. Les associations coopératives d'économie familiale et les institutions financières multiplient les trousses, jeux, questionnaires et exercices de simulation pour inciter à l'épargne. En 2014, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, a lancé une campagne de promotion mettant en valeur les animatrices Judy Schneider et France Baudouin. Son objectif était d'encourager les gens à poser plus de questions à leurs conseillers financiers et à s'informer davantage sur les différents produits offerts. La littératie financière des Québécois progresse à pas de tortue. Ils ont obtenu tout juste la note de passage, 60,1%, au plus récent sondage de l'AMF qui mesure la vigilance financière. Les gens n'osent pas poser de questions à leur conseiller financier, déplore Camille Baudouin, directeur de l'éducation financière de l'AMF. Ils ne savent ni comment il est rémunéré, ni s'il y a des frais exigés pour leur placement. Il faut trouver le moyen de développer ces réflexes de base, et ce n'est pas seulement avec un cours qu'on va changer ça, croit-il. Les élèves du collège Boisbriand, une école privée où les frais d'inscription s'élèvent à 6 365 $, viennent de milieux aisés. Les notions d'épargne sont déjà bien ancrées chez eux, chez beaucoup d'entre eux, comme le jeune Étienne qui brandit le résultat de son dernier examen, 98%. Mes deux parents sont courtiers et ils me font toujours plein de discours là-dessus, dit l'adolescent. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des jeunes, qui présentent d'importantes lacunes en matière de connaissances financières. Si le Québécois moyen obtient 60,1%, les 18 à 24 ans n'ont obtenu en moyenne que 47,1%. 4,6% au sondage de l'Autorité des marchés financiers. Mais le Québec n'est pas le seul à montrer des lacunes, note Pierre-Carme Michaud, professeur et chercheur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Dans la plupart des pays industrialisés, les connaissances financières des jeunes, des sans-emploi, des femmes et des personnes âgées sont plus faibles que la moyenne. Les champions du monde dans ce domaine sont les Chinois. Les jeunes de 15 ans de Shanghai sont arrivés bon premier au dernier test PISA de l'OCDE qui mesure les connaissances dans les matières de base et dont une section portée pour la première fois sur les connaissances financières. Plutôt étonnant pour un pays communiste. Les autres pays qui se sont démarqués sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Estonie et la Belgique. Le Canada n'a pas participé à cette étude. Difficile de trouver un dénominateur commun entre les pays qui réussissent le mieux, explique Pierre-Carme Michaud, qui siège à un comité d'experts de l'OCDE chargé d'étudier les meilleures pratiques en éducation financière. Mais beaucoup, comme le Royaume-Uni, ont intégré à leur cursus scolaire un cours obligatoire sur les finances personnelles. Et 45 pays, dont 14 du G20, se sont aussi dotés d'une stratégie nationale en la matière. Le gouvernement canadien a fait connaître la sienne en juin dernier. La stratégie nationale pour la littératie financière, Compte sur moi Canada, comprend notamment des outils, dont un site Internet, pour sensibiliser davantage les jeunes aux notions d'épargne. Le Québec planche en parallèle sur sa propre stratégie, qui devrait être mise en œuvre à l'automne 2015. Elle vise à concerter les différentes initiatives déjà en place et à briser le tabou de l'argent, toujours présent chez les Québécois. Au Québec, il y a encore une gêne à parler de finances et les besoins sont différents, note Camille Baudouin de l'AMF. On se rend compte par exemple que les francophones se préoccupent des questions de consommation alors que les anglophones s'intéressent davantage à l'investissement. La province enregistre le plus grand retard au pays à ce chapitre. Pierre-Carme Michaud attribue en partie ce désintérêt au régime de retraite à prestations déterminées offert en plus grande proportion au Québec qu'ailleurs au Canada. Les travailleurs n'avaient pas à se soucier de planifier leur retraite, d'ailleurs le faisaient à leur place, mais c'est de moins en moins le cas. L'objectif d'une stratégie nationale est aussi de regrouper les initiatives. Ne serait-ce pas plus simple d'intégrer des cours de finances personnelles dans les écoles ? Un cours seul ne changera pas tout, reconnaît Dominique Asselin, fondateur de l'Académie du Trésor. Les parents sont les premiers à éveiller leurs enfants à ces questions, mais ceux-ci n'en savent pas assez. Il y a donc du travail à faire de ce côté-là aussi, dit-il. La Colombie-Britannique a introduit en 2004 un cours obligatoire sur la gestion des finances personnelles et l'Ontario intègre depuis 2011 des notions de finances personnelles dans son programme général de la 4e à la 12e année. Qu'attend donc le Québec ? Le ministre de l'Éducation confirme qu'un cours optionnel en éducation financière est en préparation pour les élèves du 5e secondaire, mais que celui-ci doit d'abord obtenir l'approbation du ministre avant d'être inclus dans le programme. Or, il promet la même chose depuis 2012, et rien n'a encore remplacé le cours d'économie largué en 2009. Aurait-on oublié le principe de base des intérêts compensés ? Plus on commence tôt, plus on gagne. Voilà, c'était donc... écrit par Cathy Noël, Briser le tabou de l'argent dans l'actualité de août 2015.
J'ai un char, un vieux char, qui n'a plus de roues. Je m'en sers encore pour rester chez nous. Pleine de trous, dedans comme dehors. Tu peux lire mon histoire dans les cracks du trottoir. J'ai un oiseau qui a perdu son nid, mais qui chante tous les soirs dans mon lit. J'ai un cadran qui manque une main, mais qui m'avertit. On est demain. Oh, je suis bien, je suis roi de rien, ni sujet ni souverain, pas de sang sur les mains, que je suis bien, je suis roi de rien.
tout en bois, mais qui manque le courant. J'y écoute le silence quand il a le temps. Par la fenêtre, la cuisine, je vois tomber la vie. Puis je peux compter les gouttes quand je m'ennuie. Je traîne un vieux lion qui n'a plus de dents, mais qui valse au bonheur des passants. J'ai un bateau qui prend pas l'eau, mais qui aime le gin. Sans glace ni eau, je suis bien. Je suis roi de rien, ni sujet ni souverain. Pas de sang sur les mains, que je suis bien. Je suis roi de rien. Oh, je suis bien. Je suis roi de rien, ni sujet ni souverain. Pas de sang sur les mains, que je suis bien, je suis roi de rien.
Bon, ben c'était beau. Mais ce qui est encore plus beau, c'est Bébé bien repu. Oui. Alors, j'ai un bel article ici, contenu dans la revue Protégez-vous, et le chargé de projet, c'est Charles Désy. Il a fait des tests, mais pas n'importe quel test, sur des préparations lactées.
Des préparations lactées.
Oui, ça vous dit quelque chose?
Très peu.
Alors, c'est pour les nourrissons.
Ah!
Oui, on en trouve enrichi en fer avec oméga 3, sans lactose, etc. Et laquelle choisir pour combler bébé? Attendez-vous un bébé prochainement? Non? Oui? Alors, tous les professionnels de la santé s'entendent pour dire que le lait maternel est le meilleur choix pour assurer la croissance et le développement de votre nouveau-né. Il contient toutes les calories et les nutriments dont il a besoin, ainsi que des anticorps pour l'aider à se protéger contre les maladies infectieuses et chroniques. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et la Société canadienne de pédiatrie recommandent d'ailleurs l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de bébé. De 6 mois à 2 ans, l'allaitement doit être complété par des aliments solides. Néanmoins, certaines mamans choisissent de ne pas donner le sein à leur enfant ou se voient contraintes pour des raisons médicales comme la prise de certains médicaments de ne pas le faire. En 2011-2012, 11% des mamans canadiennes n'allaitaient pas leur bébé et selon les données de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes menée par Statistique Canada, ce taux augmente à 74% lorsqu'il est question d'allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus. Et les préparations lactées vendues en magasin constituent la seule solution de rechange au lait maternel. Et lors de notre étude de marché, nous avons trouvé près d'une centaine de produits pour nourrissons 0-12 mois, des poudres, des liquides concentrés ou prêts à boire. Que doivent contenir ces préparations? Nous avons eu du mal à obtenir des entrevues avec des spécialistes. Plusieurs infirmiers et nutritionnistes contactés n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet, affirmant que leur mandat consiste à promouvoir la santé et une saine alimentation. Alors, on a aussi voulu savoir, c'est pas moi là, c'est Protégez-vous, si les préparations lactées vendues au Québec contenaient des traces d'aluminium.
Ben tiens.
Ben oui, il y en a qui lichent des portes d'aluminium, là, je comprends pas. Là. Comme l'ont montré il y a quelques années des études publiées en Europe. Nous avons ainsi soumis à l'analyse 37 produits. Bilan, tous respectent les normes internationales. Bon. Et les résultats montrent tout de même que la concentration d'aluminium varie beaucoup d'un produit à l'autre, dépendant si vous êtes proche de l'alcan, je ne sais pas. Toutes les préparations destinées de 0 à 12 mois vendues au Canada, mais ça c'est rien, on parle d'aluminium, mais il y a de la cendre.
La cendre?
Oui, il y a des cendres dans les produits dus aux combustions, à la combustion, c'est incroyable. Alors, vendus au Canada, doivent répondre aux exigences du règlement sur les aliments et drogues du gouvernement du Canada. Alors, vous êtes ainsi assuré qu'elles contiennent la quantité nécessaire de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines et de minéraux pour favoriser le développement de votre bébé. Peu importe la marque que vous choisirez, la recette sera similaire. Mais plusieurs produits affichent aussi des allégations comme enrichis en fer ou avec oméga 3 et oméga 6. Et ces nutriments sont-ils essentiels ou est-ce une question de marketing? En priorité, il faut rechercher la protéine de lait. J'imagine, lait maternel en tout cas. Les préparations à base de protéines de lait de vache occupent 90 % du marché et sont la norme pour les nourrissons nés à terme et en santé. Après l'allaitement, elle devrait constituer votre premier choix. En fait, il existe très peu de raisons de choisir une autre formule, dit Geneviève Baudry, nutritionniste au Centre intégré de santé et de services sociaux. Parmi celles-ci, l'allergie confirmée de votre bébé aux protéines de lait. Vous devrez alors vous tourner vers les préparations à base de protéines ultra-hydrolysées ou d'acides aminés. Les protéines du lait qu'elles contiennent ont été transformées en courtes chaînes de peptides ou en acides aminés de manière à les rendre plus faciles à assimiler. Cherchez les termes « hydrolysés » ou « acides aminés » dans la liste des ingrédients. Votre médecin pourra vous conseiller. Et comme ces préparations coûtent plus cher que les formules ordinaires, il est préférable de confirmer la présence d'allergies avant de les adopter.
Oui.
Le soja, ça c'est pour des cas d'exception. Il existe aussi des préparations à base de protéines de soja. On en a trouvé une dizaine sur le marché, et bien qu'elles contiennent les éléments nécessaires à la bonne croissance de bébé, la Société canadienne de pédiatrie estime qu'elles devraient être réservées à deux types de nourrissons. Les Asiatiques peut-être, non? Soja, non. Alors, ceux souffrant de galactosémie, une maladie héréditaire rare qui empêche le bébé de transformer les sucres simples du lait et qui peut entraîner une cirrhose du foie. Et les bébés issus de familles qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers pour des raisons culturelles ou religieuses. Alors, on parlait des Asiatiques tantôt, c'est pas bête. Mais attention, des études ont montré que ces préparations ne favorisent pas suffisamment la croissance chez les nourrissons prématurés et ceux atteints d'hypothyroïdie congénitale. De plus, les phytoestrogènes, des substances végétales de structure analogue à celle des oestrogènes, contenues dans le soja, soulèvent des inquiétudes. Pour l'instant, il n'existe pas de preuves quant aux effets toxiques des phytoestrogènes sur les nourrissons en santé, mais on se pose des questions, indique le pédiatre Jean-Claude Mercier, qui a participé à la rédaction du guide de mieux vivre avec son enfant de la grossesse à 2 ans, publié par l'Institut national de santé publique. Et ces préparations soja ne sont pas non plus une véritable solution de rechange pour les bébés allergiques aux protéines de lait, puisque plusieurs enfants sont aussi allergiques aux protéines de cette légumineuse. Coudon. Souligne Abigail Obradovitch, diététiste à l'hôpital de Montréal pour enfants et directrice de la formation à l'Association québécoise des allergies alimentaires. Et précise, le docteur Mercier, aucune étude n'a démontré qu'elles peuvent réduire les coliques, une des raisons évoquées par les parents qui choisissent ces formules. Alors, est-ce qu'on a le temps pour mentionner quels sont les meilleurs produits?
Ah oui, il y en a
ça. Ça vous met le lot à la bouche, Roger, ce que je viens de... Ou le lait à la bouche, peut-être?
La crème glacée.
Non, il n'y a pas. Il y en a en spécial cette semaine, oui. La part lourde à 2,99. Bon, les préparation lactée. Le choix du parent... Le choix du parent, préparation pour nourrissons avec fer. Celui-là, ça coûte 380 $.
Combien? Quelle quantité?
Mais pour 6 mois. Ça va? Et ça va jusqu'à 1 110 $ pour 6 mois quand même.
Faut pas faire une erreur au début quand on achète.
Pas tellement. Alors, le choix du parent, il y a le choix du président.
Alors, si vous pensez c'est parent ou président?
Que votre enfant va devenir président, alors c'est le choix du président. Préparation pour nourrissons, qui lui va coûter 29 cents la portion, et puis pour 6 mois, ben, c'est 425 $. Et Nestlé, bon départ, il est facile à digérer. Ouais. Oui. Et lui, il revient à 40 cents la portion. Et puis, il y a Similac, hein? On connaît Similac, on a entendu parler de Similac. Oui, Similac. Bon, enrichi de fer, il vient en quatrième position. En famille, et non pas en famille, en famille.
En famille, oui.
Oui. Et puis, en famille, A+. Nestlé, bon départ. Et oui. puis, Similac. Alors, ça vous donne... Ça, c'est du concentré, mais il y a en poudre après.
Ah.
Et là, il faut mettre de l'eau.
Mais il y a 100 produits, mais ils sont tous potables.
Oui, ils sont tous potables, mais il y en a des meilleurs que d'autres.
Bon.
Ça va?
Merci, docteur.
Alors maintenant, quelques brèves. À propos de l'éducation, les autocars de la finance, ça reste dans mon sujet. En Chine, Visa organise des tournées en autocar dans les régions rurales pour initier les enfants et les adolescents au rouage de la finance. Les autocars sont équipés de portables et les jeunes peuvent tester leurs connaissances en jouant à un jeu vidéo de football dans lequel ils doivent répondre à des questions financières pour marquer des points. Des autocars semblables sont financés par des banques ou des sociétés de crédit, sillonnent les routes en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ou un autocar de Lady Gaga, le Born Brave Bus, suit la chanteuse en tournée pour sensibiliser les adolescents à l'intimidation, à l'homophobie et au décrochage, leur prodiguant au passage des conseils pour gérer leur argent de poche.
Si, comment les préparer en poudre? Oui, oui. Alors, les préparations pour les bébés en poudre et en concentré devraient être mélangées avec de l'eau froide, préalablement bouillie, afin d'éliminer les bactéries potentielles et éviter d'utiliser l'eau chaude du robinet pour préparer le biberon de bébé de moins de 4 mois, car elle peut contenir plus de plomb, de contaminants et de bactéries que l'eau froide.
Bonne chose à savoir, François, le pape François possède un nouveau jouet, c'est un drone aux couleurs du Vatican, saviez-vous ça?
Un drone?
Offert par un drone, oui. Offert par un élève de l'école jésuite de Rome, ce cadeau représente les valeurs de la technologie au service de l'homme. Alors, c'est un présent digne d'un pape qui encense Internet et approuve la théorie du Big Bang. Où se poursuit, je propose maintenant une petite balade. Ça peut être sur le Saint-Laurent, même dans les rapides de la Chine, avec un surf, mais un surf spécial. Il surfe en pagayant. C'est un texte de Simon Diot dans l'actualité du mois de juillet. Quand Hugo La Victoire a vu pour la première fois des gens pratiquer le stand-up paddleboarding, planche à rame ou planche à pagaie, en Californie en 2008, il n'en croyait pas ses yeux. Je me suis dit, quelle idée ridicule de faire du kayak et du surf en même temps, se remémore le propriétaire de KSF, une école de kayak située à La Salle. Il décide néanmoins, par acquis de conscience, de rapporter deux planches à rames à Montréal en vue de les mettre à l'essai. Une décision qui transformera sa vie. Contre toute attente, non seulement il devient complètement accro de ce sport, mais la planche à rames propulsera son entreprise vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, le SUP, acronyme de Stand Up Paddle Boarding, constitue l'activité vedette de son école, déclassant le kayak et le surf de rivière. Né à Hawaï et popularisé au début des années 2000, le SUP connaît depuis un engouement monstre partout dans le monde. Selon Outdoor Foundation, regroupement américain de l'industrie du plein air, c'est le sport qui enregistre la plus forte croissance de popularité aux États-Unis. Et le Québec n'échappe pas à la vague. Dans les alentours de Montréal, on ne compte plus les écoles qui offrent une initiation au SUP, tandis qu'en région, la nouvelle bibitte prolifère dans les centres de villégiature. Avec l'apparition récente de planches gonflables qui se rangent dans un sac à dos et sont donc plus faciles à transporter, la démocratisation de la planche à rames ne fait que commencer. « On n'est qu'au début d'une puissante vague de fond », affirme Vincent Bédard, directeur des communications et du marketing chez Pélican,
un leader mondial dans la fabrication d'embarcations nautiques en tout genre. Père de famille de 41 ans, Sébastien Giguère a découvert l'existence du SUP en 2012 en magasinant en ligne. Curieux, il a loué un équipement. Après une seule journée d'essai, il est devenu accro comme il ne l'a jamais été pour un autre sport. Debout sur une planche, on a l'impression de marcher sur l'eau, de posséder son îlot flottant. C'est surnaturel, raconte ce résident des cantons de l'Est. La beauté de la planche à rames, c'est qu'on peut en faire partout. Inutile d'attendre la grosse vague comme Brice de Nice dans le film du même nom. Elle se pratique aussi bien en mer qu'en eau calme, en lac ou en rivière. Pour la mise à l'eau, on n'a pas besoin d'un quai ou d'une plage, on peut l'effectuer n'importe où, dit Sébastien Giguère. Sans compter que la planche à rames ne coûte pas la peau des dents, c'est écrit autre chose dans le texte. Un équipement se vend entre 500 et 2 000 $. Par la suite, on surfe sans débourser un sou de plus, car l'accès au plan d'eau n'est pas encore tarifé. Pas encore, c'est écrit entre parenthèses. C'est moins cher que le vélo de route et le ski alpin, ajoute-t-il. En matière d'accessibilité, le SUP se démarque. Un novice trouve son équilibre en quelques minutes seulement, alors qu'il lui faudra des heures d'entraînement pour maîtriser le surf traditionnel, la planche à voile ou la planche aérotractée, le kitesurf. Autre avantage, lorsqu'on tombe à l'eau, remonter sur sa planche n'exige pas un effort surhumain ou une technique complexe, comme pour le kayak. C'est un sport totalement axé sur le plaisir. On peut le pratiquer à fond ou en mode contemplatif, dit Éric Marchand, propriétaire de la boutique de surf Aérosport qui a ouvert ses portes l'an dernier à Oka. Et pour les amateurs de sensations fortes, le SUP n'a pas de limite, bien que plus longue qu'une planche de surf standard. La planche à pagaie ne craint pas les vagues. Au contraire, ses adeptes voguent sur les flots tels des dauphins en utilisant leur rame comme gouvernail. Grâce à l'effet de propulsion généré par la pagaie, on va chercher des vagues inaccessibles aux surfeurs traditionnels, beaucoup moins mobiles que nous. Résultat, chaque sortie procure davantage de plaisir, raconte Julie Imbault, 44 ans de Saint-Hyacinthe, une inconditionnelle de ce sport depuis 2009. Autre facteur expliquant la popularité du SUP, son aspect entraînement physique. Pour obtenir un corps de rêve, ne cherchez plus. En faisant travailler la musculature, la proprioception et la posture, le SUP tonifie tout l'organisme. Même si je faisais beaucoup de courses à pied avant, le SUP a sculpté mon corps, témoigne Annie Saint-Amour, une trentenaire de Montréal, passionnée de planche à rames depuis 3 ans. L'engouement crée aussi de nouveaux phénomènes comme les courses en haute mer, où on surfe sur la houle, et le SUP yoga, où l'instabilité du tapis accentue l'efficacité des postures et la relaxation. Mode éphémère le SUP, parce qu'elle est facile, accessible, abordable, cool et bonne pour la santé, la planche à rames possède tous les ingrédients pour devenir un sport qui va durer. Pense Hugo Lavictoire, qui en vend aussi. Cet été, succomberez-vous à la vague? C'est un texte qui nous initie à un nouveau sport. Par Simon Diot, dans l'actualité de juillet, il surfe en pagayant.
Alors, dans l'immense jardin botanique de Shenzhen en Chine, des chercheurs québécois imaginent comment assainir efficacement l'environnement avec des plantes. C'est un texte écrit par Valérie Borde qui s'intitule « Un jardin pour la planète ». Pour sa retraite, Gilles Vincent a trouvé un terrain de jeu de rêve. Après 30 ans au jardin botanique de Montréal, dont 13 ans comme directeur, le botaniste a posé l'an dernier ses valises dans la banlieue de Shanghai, plus exactement au jardin botanique de Shenzhen, où il est conseiller spécial du directeur. Les autorités chinoises n'ont pas lésiné pour aménager en moins de 3 ans et pour près d'1,5 milliard de dollars un immense jardin, 3 fois la taille de celui de Montréal. destinés à la conservation des plantes, à la recherche et à l'éducation à l'environnement. Inauguré pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010, Shenzhen impressionne les visiteurs avec ses trois vastes serres futuristes. On entrerait deux terrains de football dans chacune d'elles. Ses lacs, ses 26 jardins thématiques et ses laboratoires couverts de toits verts vallonnés. Mais ce qui passionne le plus Gilles Vincent dans cet espace vert se trouve... Mais ce qui passionne le plus Gilles Vincent dans ce grand espace vert se trouve en bordure du jardin. Le long d'une rivière aux eaux plutôt troubles, polluée à souhait, on a creusé 56 grands bassins artificiels que l'on a reliés au cours d'eau. Et un peu plus loin, on a scindé une portion de terre en 20 parcelles de 100 mètres carrés chacune. Celles-ci attendent d'être plantées. Dans ces deux installations de recherche, uniques au monde par leur dimension, l'équipe de Gilles Vincent tentera de répondre à un besoin criant en Chine et avec lesquels toute la planète est aux prises. Trouver des techniques efficaces pour assainir à peu de frais de l'eau ou des sols contaminés par toutes sortes de polluants d'origine agricole, industrielle ou urbaine. On sait depuis longtemps que les plantes peuvent absorber les contaminants. Mais il y a un monde entre les résultats que l'on obtient dans nos laboratoires et ce qui se produit quand on teste ces techniques en conditions réelles, explique Jacques Brisson, botaniste à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal et pionnier de la recherche sur les marais filtrants artificiels. Sur certains terrains contaminés, les plantes font parfois même augmenter la concentration en polluants là où elles devraient baisser, sans qu'on comprenne pourquoi. Renchérit Michel Labrec, également chercheur à l'Institut et conservateur au Jardin botanique de Montréal. À l'invitation de leur ancien collègue Gilles Vincent, ces deux chercheurs ont commencé à utiliser les installations de Shenzhen pour perfectionner ces techniques. Ce qu'on fait là-bas serait impensable au Québec. On a obtenu l'autorisation de placer dans les 20 parcelles de la terre que nous avons nous-mêmes contaminée avec des quantités bien précises de métaux lourds, comme du plomb ou du zinc, que l'on trouve typiquement dans les terrains pollués, explique Michel Labrec. Isolées du sol environnant, ces parcelles où tout est contrôlé permettront de déterminer exactement quelles combinaisons de plantes peuvent extraire quel mélange de contaminants. Dans les bassins artificiels, les chercheurs testeront aussi différents assortiments de plantes et évalueront leur capacité d'assainir la rivière voisine, dont le degré de pollution très élevé est courant dans de nombreux endroits en Chine. Une fois aménagés, les marais filtrants ne coûtent presque rien, explique Jacques Brisson. Grâce aux expériences menées à Shenzhen, ces usines vertes pourront peut-être enfin être déployées à grande échelle dans le monde, avec la garantie qu'elles donneront des résultats. Une solution bien plus accessible que les stations d'épuration et nettement plus jolie. Voilà, donc c'était écrit par Valérie Borde dans la revue L'Actualité, août 2015. Et maintenant, terreur dans ma cour. Une redoutable plante d'origine asiatique gagne du terrain au Québec. Elle s'appelle la renouée du Japon. Longtemps prisée par les horticulteurs pour ses fleurs blanches et ses tiges semblables à celles du bambou, elle étouffe toutes les autres espèces sur son passage.
Oh.
Ah oui, introduite en Europe par un explorateur allemand au 19e siècle, repérée au Québec pour la première fois en 1918, c'est l'une des envahisseuses les plus nuisibles au monde. Elle peut croître de 8 cm par jour et atteindre 3 mètres de haut. Ses racines s'enfoncent jusqu'à 2 mètres de profondeur et peuvent s'étendre horizontalement sur une distance de 20 mètres. Même de minuscules fragments restés en dormance dans le sol peuvent ressurgir au bout de 10 ans. Le biologiste Claude Lavoie, directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, fait le point. Quel est l'état des lieux au Québec? De tous les envahisseurs végétaux présents au Québec, c'est le plus difficile à éradiquer. La plante est en pleine expansion, en particulier sur les rives des cours d'eau comme les rivières Chaudière, Etchemin et l'Assomption. On en trouve jusqu'à la basse côte nord et les changements climatiques vont certainement favoriser sa dissémination. Les infrastructures sont-elles menacées? La renouée du Japon profite de toutes les ouvertures. Elle peut s'infiltrer dans les fissures des fondations d'une maison. Par exemple, au Royaume-Uni, des entreprises spécialisées vendent des membranes qu'on pose directement sur les fondations pour les protéger des racines. Mais si le béton est sain, la plante n'ira quand même pas jusqu'à le faire craquer. En revanche, elle perce l'asphalte sans difficulté. Elle peut ainsi maganer une entrée de garage ou une piste cyclable. Et enfin, comment l'éliminer ? La fauchée ne suffit pas. Je connais des gens qui la fauchent toutes les deux semaines depuis 4 ans et qui n'en viennent pas à bout. Même les pesticides donnent des résultats mitigés. Il faut employer la manière forte, excaver. Et si vous la laissez pousser, vous n'aurez bientôt plus rien d'autre sur votre terrain. C'est une envahisseuse extraordinaire.
Comment ça s'écrit ?
La renouée du Japon.
R-E-N-O-U-E-E
du Japon. Et c'est donc que cet article était écrit par Noémie Mercier dans l'actualité de août 2015.
Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas la beauté du monde. Na 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 du du, va 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 vivre, va va vivre. Ne tu vends pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas le chant des oiseaux. Ne tu vends pas le bleu. Tu vends pas la beauté du monde. Tu vends pas la beauté du monde. Tu vends pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant.
C'est beau, la beauté du monde. C'est beau, c'est beau. Alors, je plonge dans la revue itinéraire et on va parler de création pour soigner les émotions. Ouais. C'est un texte qui a été écrit par Héloïse Barguin et Alexandra Guélil. Peindre pour prendre conscience de ses contradictions. Dans mon cas, ça serait ça, oui. Dessiner pour dédramatiser ses conflits. La création artistique permet avec l'art-thérapie d'accéder à des sentiments enfouis. Au Québec.
Comme pour la renouer.
La
renouer, ça va loin.
Oui. Au Québec, cette pratique souffre d'un manque de reconnaissance chronique, notamment depuis 2009, date d'application de la loi 21 modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Rencontre avec ceux et celles pour qui l'art-thérapie rime avec bien-être. La loi 21. Est-ce que les art-thérapeutes, ce sont des professionnels illégaux? La loi 21, adoptée en 2009, encadre maintenant la pratique de la psychothérapie. Seule de nombreuses professions, dont celle d'art-thérapeute, sont laissées pour compte. Pierre Plante, psychologue et art-thérapeute, constate que de nombreux professionnels sont devenus illégaux, faute d'avoir obtenu un permis d'exercer la psychothérapie. Et depuis l'entrée en vigueur de la loi 21, particulièrement depuis 2014, l'Ordre des psychologues du Québec responsable d'appliquer la loi envoie des lettres à des professionnels les obligeant à se retirer de la pratique de la psychothérapie. Cette nouvelle réglementation proposée par l'Office des professions a pour but d'éviter au public les abus des psychothérapeutes charlatans et la loi est tout à fait nécessaire et justifiée, précise M. Plante. Cependant, elle prive la population québécoise d'une diversité de services offerts. Selon la dite loi, le titre de psychothérapeute est réservé à des membres d'ordre professionnel spécifique, psychoéducateurs, sexologues, etc. Seulement, il n'y a pas un ordre de thérapeute par les arts. Ainsi, d'ici à ce que l'Office des professions corrige la situation, ce sont les Québécois qui seront privés des bienfaits de la thérapie par les arts, explique M. Plante, qui est l'actuel président de l'Association des arts-thérapeutes du Québec. Et de plus, il précise que l'Office des professionnels des professions et l'Ordre des psychologues conçoivent la thérapie par l'art comme une technique utile pour les psychothérapeutes. Et ceci est, selon lui, la preuve de l'incompréhension de ce qu'est l'art-thérapie. Il est inconcevable de penser qu'un psychothérapeute sans formation approfondie pourrait s'improviser art-thérapeute. Et selon l'Ordre des psychologues du Québec, l'art-thérapie peut être utilisée dans un objectif de traitement psychologique. Elle aurait alors pour but de favoriser des changements significatifs dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental d'une personne. Et bien que l'art-thérapie demeure un domaine vaste sur le plan des approches, il existe en effet plusieurs façons de pratiquer l'art-thérapie individuelle, groupes ouverts et groupes fermés, etc. Et la psychothérapie par l'art, eh bien, en est une. Alors, c'est deux poids, deux mesures pour l'Association des arts-thérapeutes du Québec. L'art-thérapie est une discipline des sciences humaines qui étend le champ de la psychothérapie. Elle puise ses fondements dans l'art et la psychologie. Et l'art-thérapie englobe l'expression et la réflexion, tant picturale que verbale. Et de par sa formation, l'art-thérapeute est en mesure d'évaluer le fonctionnement psychologique du client et de lui proposer des interventions et des traitements art-thérapeutiques adaptés à la problématique. Et l'Ordre des psychologues du Québec distingue la psychothérapie de l'art-thérapie. Cette pratique est définie comme une méthode d'intervention qui peut être très efficace lorsqu'il faut intervenir auprès de personnes qui présentent des fragilités sur le plan de la santé mentale ou qui ont de la difficulté à utiliser la parole comme moyen de communication. Et la loi 21 a pour but principal de protéger le public en définissant les activités à risque de préjudice et identifiant les professionnels autorisés à les pratiquer. Voilà. Alors, les inquiétudes. Ah oui, cet art qui fait du bien. Voyez-vous? Des feuilles et des feutres sont éparpillées sur la table d'Anna Maria. Dans sa main, l'une de ses récentes réalisations, un faon ressemblant à Bambi. Des œuvres comme celle-ci, elle en a plein son sac. Les réaliser l'aide à se sentir plus positive. Participer aux ateliers offerts par les impatients lui donne le sourire. Alors, on dit qu'ici, c'est une place pour m'exprimer. Alors, dessiner m'aide à contrer ma maladie, amorce Anna Maria. Ici, c'est les impatients, un organisme qui vient en aide aux personnes ayant un trouble de santé mentale par l'intermédiaire de l'expression artistique. Heureuse d'offrir son témoignage pour prouver les bienfaits de l'art-thérapie au monde, elle montre ses dessins avec une certaine fierté. Même si elle a vécu quelques événements diagnostiqués paranoïaques, elle ne rentre pas dans les détails. Ce qui compte, c'est de parler de l'importance de sa passion, le dessin, son exutoire depuis son plus jeune âge. « Je me sens uniquement en thérapie quand je suis avec les autres personnes. Ici, je me sens comme en famille et c'est ma vie », explique-t-elle. Et sa famille de sang a, dit-elle, été impressionnée par son talent. Son plus grand souhait est d'ailleurs qu'il vienne découvrir ses projets lors des expositions publiques. Nous sommes des personnes comme les autres et nous avons tous besoin d'amour, et c'est ce que je retrouve ici. À ses côtés, Nicole, qui participe aussi aux ateliers, approuve son propos et accepte aussi de témoigner. « Avec ces ateliers, je deviens heureuse. J'ai vécu de sales moments. » Eh bien, l'art-thérapie permet de montrer que même si on a un handicap comme moi, on peut parvenir à être en accord avec les autres et avec soi-même, raconte-t-elle. Et Nicole confie que sa famille ne l'accepte pas, et c'est donc pour se sentir appréciée par les autres, à sa juste valeur, qu'elle participe à ces ateliers chapeautés par Radu Christian Barca. Ici, les gens font de l'art, explique l'art-thérapeute. C'est ça qui leur fait du bien. C'est ça Dans ces ateliers, les participants sont totalement libres de discuter. Faire de l'art avec eux me permet d'avoir un contact avec le fonctionnement de l'esprit humain, raconte Racu Christian Barca. Alors, voyez, pour ceux qui ne savaient pas que l'art thérapeute existait, eh bien maintenant, on est un peu plus au courant.
On
en apprend.
On a déjà entendu parler des impatients, mais là, c'est encore plus généralisé que ça.
Oui.
Je pense que Clémence Desrochers en fait la promotion.
Ah oui? Exactement. Merci beaucoup.
Alors, maintenant, c'est le temps des brèves. 580 000, c'est le nombre d'arbres que les Équatoriens ont récemment plantés sur leur territoire en une seule journée. Des dizaines de milliers de volontaires se sont acquittés de cette tâche à l'invitation des autorités équatoriennes qui comptent reboiser l'entièreté des forêts du pays d'ici 2017.
Une petite notice, un avis pour ceux qui seraient intéressés à faire le voyage vers la planète Mars.
Bien sûr, demain matin.
Oui. Bon, alors notez bien ceci. Les humains qui s'envoleront un jour vers Mars pourraient arriver à destination pas mal moins intelligents qu'à leur départ.
Ah bon?
Quoi, des chercheurs américains. Les voyageurs sont exposés à d'importantes doses de radiation, ce qui risque d'altérer leur capacité cognitive. Les chercheurs ont exposé des souris au même type de radiation que l'on trouve dans l'espace, et celles-ci ont nettement moins bien effectué des tâches pourtant facilement accomplies par les souris du groupe témoin. Les radiations endommagées de façon irréversible les connexions neuronales. Sans ces connexions-là.
Oui, et moi, je vais vous parler de la créativité. Hein. J'étais dans l'art thérapeute. Alors, Pablo Picasso, il parle de la créativité. Il dit que dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Albert Camus, créer, c'est vivre deux fois. C'est beau, hein? Louise Portal, elle est plus près de chez nous. Louise Portal. L'actrice, la comédienne. Dessiner, c'est mettre des patins à son imagination. C'est réinventer les choses, des objets. C'est parler et dire à travers des formes et des ombres. C'est beau, hein? Je termine avec un proverbe chinois. Celui qui marche sur les pas d'un autre ne laisse jamais de traces.
Ah, c'est beau.
C'est beau, hein?
Maintenant, quelque chose de très scientifique, c'est le Viagra à la rescousse de la malaria. Le Viagra pourrait aider à lutter contre la malaria, maladie tropicale qui tue chaque année plus de 600 000 personnes. Des chercheurs européens avancent que le nitrate de sildenafil, nom scientifique du principe actif du Viagra, pourrait interrompre le cycle de reproduction du moustique vecteur de la maladie, dont une étape se déroule dans le corps humain. Pour s'y multiplier, le parasite ramollit d'abord les globules rouges, ce qui fait que ceux-ci demeurent plus longtemps dans la circulation sanguine avant d'être éliminés naturellement par la rate. Cela laisse au parasite le temps d'incubation dont il a besoin pour se développer, avant de profiter de la piqûre d'un autre moustique pour quitter le corps humain et retourner dans l'insecte, terminer son cycle de reproduction. Le rôle du Viagra dans tout ça, il rigidifie les globules rouges, ce qui a pour résultat qu'il s'élimine plus rapidement par la rate. La larve du moustique n'a plus le temps de croître suffisamment et meurt.
Une brève pratico-pratique maintenant, oui. Des retards justifiés. Lorsqu'un de ces trains tombe en panne, la Société de transport du Cap en Afrique du Sud offre à ses usagers de contacter elles-mêmes leurs employeurs pour les en informer. Les usagers doivent d'abord télécharger l'application Email My Boss, envoyer un courriel à mon patron. Dès qu'une panne survient, l'appli détecte l'employé coincé et avise son patron. Auparavant, les travailleurs devaient patienter en file dans les bureaux de la société de transport pour obtenir la preuve écrite de la panne et ainsi éviter les foudres du boss.
Oh là là! Ouais! Alors, voulez-vous savoir ce que Albert Einstein pensait de la créativité?
Nous sommes tout oui. Non, notre journée ne peut pas commencer
tout oui
sans
ou tout non. OK. Alors, l'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée, surtout chez certaines personnes.
Oui.
Tandis que l'imagination est infinie.
Ah oui?
Oui. Et Boris Vian dit, cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre.
Ben oui.
C'est beau, hein?
C'est ça. Bon, moi, j'ai un texte ici donc, qui s'appelle « Du pot pour les enfants ».
Oui.
Grâce à un inhalateur conçu par l'entreprise israélienne CSYGE, je pense que je n'aurai pas le temps de lire parce que j'ai même buté sur le sigle.
Oui, oui. Alors?
Alors, c'était le kiosque magazine du 3 août que nous avions à vous proposer.
Ouais.
Mathieu Tessier en régie qui nous fait de grands signes.
Oui.
Serge Hamelin,
François Guillaume-Pierre,
Roger Roy. Au revoir.